Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Israël-Palestine, a-t-on le droit de contester la politique israélienne? C'était le thème d'un colloque qui s'est tenu cette semaine au Sénat à l'initiative de l'association France-Palestine Solidarité. En janvier dernier, le ministère des Affaires étrangères israélienne publiait une liste de 20 organisations étrangères dont les membres sont dorénavant interdits d'entrer sur le territoire israélien. Il leur est reproché de participer au mouvement international boycott, désinvestissement et sanctions qui veut faire payer à Israël le prix de l'occupation en Cisjordanie. Parmi les organisations visées, 11 sont européennes. On y trouve par exemple l'association France-Palestine Solidarité. Et concernant les États-Unis, c'est Jewish Voice for Peace qui citait Voix juive pour la paix, un mouvement qui a particulièrement fait parler de lui outre-Atlantique, Washington étant le principal soutien d'Israël dans le monde. Regard sur la politique israélienne à l'égard des défenseurs des droits des Palestiniens et les défis de ces derniers. C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Léa Tzemel, avocate israélienne et défenseuse des droits de l'homme, titulaire du prix des droits de l'homme de la République française. Bonjour.
Bonjour.
Rebecca Wilkomerson, directrice exécutive de l'association américaine Jewish Voice for Peace. Bonjour.
Bonjour.
Dominique Vidal, journaliste et historien, auteur de « Antisionisme égale antisémitisme, point d'interrogation », réponse à Emmanuel Macron, paru aux éditions Libertalia. Bonjour.
Bonjour.
Et Bertrand Elbrun, président de l'association France-Palestine Solidarité. Bonjour.
Bonjour.
BDS, donc boycott, désinvestissement, sanctions, c'est un mouvement qui est né en 2005. Il s'inspire du boycott d'Afrique du Sud dans les années 1980. Il s'oppose, je le cite, à l'occupation israélienne et aux violations des droits humains commises par l'État d'Israël en appelant au boycott des produits israéliens, y compris des biens culturels et intellectuels. En mai 2017, le Parlement israélien adoptait une loi qui interdit l'entrée en Israël aux étrangers qui soutiennent des mesures de boycott contre le pays. En janvier de cette année, c'était une vingtaine d'organisations étrangères qui se voyaient désormais interdire l'entrée sur le territoire israélien. Force est de constater un durcissement certain. Alors, double question pour commencer. Est-ce une réaction à la menace que constitue BDS? Et comment mesurer l'impact de ce mouvement, son influence économique et politique? Léa Tzemel.
Ok, I will start. First of all, I want to clarify that the law doesn't say that people from those organizations are not allowed into Israel.
Oui, alors tout d'abord, je voulais clarifier un point. La loi ne dit pas que les personnes de ces organisations n'ont pas le droit d'entrer en Israël. La loi dit, elle, que c'est toutes les personnes qui soutiennent BDS, qui soutiennent de ne pas utiliser, de ne pas acheter les produits vendus par Israël ou produits sur les territoires occupés qui sont visés, puisque BDS se penche évidemment tout d'abord sur empêcher d'acheter des produits sur les territoires occupés. Il semblerait donc bien que Israël soit particulièrement mal à l'aise face à cette campagne. Ils se sentent peut-être même menacés. Nous savons en tout cas que certains artistes doivent maintenant faire face aux conséquences de cette campagne BDS. Certaines personnalités politiques également. Et j'ai l'impression que l'Union européenne, j'ai cru comprendre que l'Union européenne avait également mis en place des sanctions pour le commerce des produits comme produits sur les territoires occupés palestiniens. Mais je voulais également ajouter que pour moi, c'est tout à fait normal et compréhensible de tenter d'agir contre cette situation. Que faire si l'on souhaite soutenir la Palestine, soutenir contre cette occupation de millions de personnes depuis 50 ans à présent? Cependant, dans la législation, il n'est pas inscrit que c'est un crime que de soutenir la campagne BDS. Les personnes qui appellent au boycott peuvent cependant être poursuivies au civil, sont confrontés à des amendes extrêmement élevées et une liste a été transmise au ministère de l'Intérieur qui est responsable d'accepter l'entrée des individus sur le territoire israélien dans lesquels on compte des militants, ce qu'ils appellent des personnes très importantes dans ces différentes organisations que nous avons mentionnées, mais peut-être que nous pourrons revenir là-dessus plus tard.
We'll talk perhaps later about the problems that raise from that.
Alors, Rebecca Wilkomerson, je vous passe la parole. Je rappelle que vous êtes directrice exécutive de l'association américaine Jewish Voice for Peace. Donc, toujours autour de cette question, la réaction et les pressions d'Israël sont-elles une réaction à la menace que constitue BDS? Rebecca Wilkomerson.
Yes, I'm one of the people who we believe will be personally affected by this ban.
Oui, donc je suis l'une des personnes qui est personnellement affectée par cette interdiction d'entrée sur le territoire, sur un plan personnel, puisque mon mari, mes enfants sont israéliens, mes grands-parents, mes oncles, des collègues vivent en Cisjordanie, où je ne vais peut-être pas pouvoir me rendre si cette loi est bien appliquée, donc ça a des répercussions vraiment très personnelles. Et je tiens également à rappeler que cette campagne BDS a permis de mettre au centre des discussions les impacts politiques des décisions prises par Israël. Cette décision va impacter beaucoup de personnes, mais auparavant, cette façon d'agir touchait essentiellement les Palestiniens, certains Israéliens, toutes les personnes racisées, tout particulièrement les personnes de couleur de peau noire qui souhaitaient entrer sur le territoire palestinien. Dans le cas plus précisément de mon organisation, la communauté juive est ciblée parce qu'on tente de nous affirmer qu'en raison de nos convictions politiques, nous ne pourrions plus entrer sur le territoire israélien. Cela montre bien que les politiques israéliennes ont pour but de décider qui a le droit ou l'interdiction d'entrer sur le territoire. C'est pourquoi je pense que la campagne BDS permet du moins de mettre en lumière l'idéologie israélienne et le fait qu'il soit décidé sur des raisons ethniques ou religieuses qui a le droit ou non d'entrer sur leur territoire, et c'est essentiel. Et Léa a également raison, aujourd'hui ce n'est pas un crime de soutenir la campagne BDS. Cependant, il me semble qu'une loi est en discussion au Parlement israélien, la Knesset, dont le but serait de pouvoir criminaliser le soutien à la campagne BDS pour tous les citoyens israéliens, donc les personnes vivant en Israël. Donc cela montre bien qu'aujourd'hui Israël continue de dépenser beaucoup de temps et d'argent pour utiliser et mettre en place des moyens législatifs.
Alors je sais que Léa Tsemel voudrait prendre la parole. Je continue un petit peu ce tour de table en rappelant que donc géopolitique consacrée à Israël-Palestine, a-t-on le droit de contester la politique israélienne? Point d'interrogation, Dominique Vidal.
Oui, je voulais dire, Marie-France, que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a répondu à votre question, parce qu'il a dit lui-même que BDS était une menace stratégique majeure pour l'État d'Israël. Et là, il y a un malentendu en France quand on parle de BDS. C'est très important. Bien sûr qu'il y a le boycott militant. Les gens qui vont à leur supermarché et, par exemple, n'achètent pas les dattes volées aux Palestiniens dans la vallée du Jourdain. Mais il y a aussi le boycott institutionnel. Des grands fonds de pension, comme le fonds de pension norvégien, un des plus grands du monde, des grandes entreprises, des grandes banques qui, à travers le monde, boycottent aujourd'hui les produits des colonies, voire Israël, se désinvestissent, sanctionnent Israël. Donc, vous voyez, c'est un mouvement beaucoup plus large que le simple boycott militant. Et la préoccupation des dirigeants israéliens, je rappelle que c'est un gouvernement de droite et d'extrême droite, c'est l'isolement croissant d'Israël dans le monde, sur la scène diplomatique, et la mauvaise image du pays dans l'opinion internationale. Isolement, c'est connu, l'État de Palestine est rentré à l'UNESCO, à l'ONU, à la Cour pénale internationale. Un vote récent de l'Assemblée générale sur le droit à l'autodétermination a été acquis par 176 voix contre 7. Ça donne une idée de l'isolement d'Israël. Et quand on regarde les sondages de la BBC chaque année sur l'image des différents pays, Israël est dans le peloton de queue avec l'Iran, la Corée du Nord, le Pakistan. Bref, c'est ça qui fait peur aux dirigeants israéliens. Et au fond, ce qu'ils veulent à travers la criminalisation de BDS en Israël, mais aussi ils le souhaitent en France, en Europe, aux États-Unis, c'est faire taire toute critique de leur politique. Et je crois que c'est une campagne, je termine sur cette idée parce qu'elle me paraît importante, préventive aussi. Parce que Netanyahou et ses amis savent très bien que la nouvelle politique qu'ils sont en train de radicaliser, c'est-à-dire le passage de la colonisation à l'annexion, en ce moment, la Knesset discute d'une loi d'annexion de l'ensemble des colonies, par exemple. Et il y a d'autres projets d'annexion de la Cisjordanie. Eh bien, avec cette politique-là, c'est clair que l'isolement d'Israël, sa mauvaise image, ça ne risque pas de s'améliorer, loin de là. Donc, voilà, il y a cette pression pour essayer de faire taire toute vision critique de la politique israélienne.
Alors, parmi les 20 organisations étrangères dont les membres sont dorénavant interdits d'entrer sur le territoire israélien, je le disais en introduction, il y a l'association France-Palestine Solidarité, Bertrand Brun, dont vous êtes le président.
Tout à fait. Donc, je vais commencer par dire d'abord que nous avons bien l'intention de continuer à entrer en Israël et aller rendre visite à nos amis palestiniens et à nos amis israéliens également. Je pense, comme Dominique Vidal, que cette Tout ce mouvement, c'est pour faire taire toute opposition à la politique israélienne. Je voudrais donner deux exemples. Le premier, c'est les élus français qui ont été interdits d'entrer en Israël en novembre dernier. La plupart d'entre eux n'affirment pas particulièrement un soutien à la campagne BDS en tant que telle. Ce qu'ils voulaient faire, c'était rendre visite à Marwan Barghouti, le Mandela palestinien, et c'est pour cela qu'ils ont été sanctionnés. Donc, on voit bien que c'est cela qui fait peur aussi à Israël. Deuxième point, c'est dans le choix aussi des organisations. Derrière le mot BDS, l'argument d'Israël, c'est ils veulent délégitimer notre existence. L'AFPS est parmi les organisations qui font le plus attention à ne pas aller vers cette délégitimation. Nos cibles de nos campagnes BDS sont choisies de manière à être très clairement liées à l'occupation, à la colonisation, à la violation du droit international par Israël. Et nous sommes aussi dans des alliances extrêmement fortes avec des très grandes organisations en France, que ce soit des syndicats comme CGT ou Solidaire, des ONG comme le CCFD, des organisations de défense des droits de l'homme comme la LDH et la FIDH, dans des campagnes comme par exemple des investissements des banques françaises. Le fait que le mouvement contre la politique israélienne s'élargit à travers nos actions, et notamment des actions qu'on peut appeler soit des investissements, pas forcément de boycott, et des appels aux sanctions aussi, l'appel à la responsabilité des gouvernements, c'est ça qui fait aussi peur à Israël et qui fait que nos organisations sont ciblées. Mais ça ne nous empêchera absolument pas de continuer à agir, ça ne nous intimidera pas, nous continuerons à aller rendre visite à nos amis palestiniens.
Alors, Léa Tzemel, je me tourne à nouveau vers vous. Vous évoquez cette loi en discussion au Parlement. Qu'est-ce que l'on peut dire de la stratégie du gouvernement israélien au sein même du pays, en Israël?
I just wanted to add to the former subject also. Israel pretends to be the state of the Jewish people. But it will become very soon, with this rhythm, the state of the fascist Jewish people.
Oui, alors je voulais juste revenir sur un point précédemment. Israël se définit comme l'état du peuple juif, mais très très rapidement, s'il continue dans cette voie, ce sera l'état du peuple juif fasciste. Aujourd'hui, ceux qui soutiennent Kahana, une organisation d'extrême droite, peuvent rentrer sans aucun problème sur le territoire israélien. Ils peuvent aller tranquillement dans les colonies qui sont aujourd'hui illégales et prononcer des propos raciste et ne pas être embêté. Alors qu'un juif qui est pacifique, qui soutient la paix et le droit des Palestiniens n'aura pas le droit, lui, d'entrer sur le territoire israélien. Donc pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, mais c'est seulement là un des dangers présents en Israël aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre sur toutes les législations qui existent contre les Palestiniens. C'est un peuple qui vit sous occupation. Il y a le siège de Gaza. Ils sont confrontés à des tribunaux militaires, des sanctions extrêmement sévères et des menaces tout simplement pour avoir résisté. Il y a donc différentes politiques qui existent aujourd'hui pour rendre leur vie compliquée au jour le jour. À Jérusalem-Est, aujourd'hui, les Palestiniens ne sont pas considérés comme des citoyens jouissant de droits, mais simplement des résidents. Donc vous voyez, de nombreuses lois et règlements existent pour les attaquer quotidiennement. Par exemple, un Palestinien en Israël n'a pas le droit de commémorer le jour de la Nakba, du grand désastre palestinien. Si un théâtre, une école ou un groupe décide de le faire immédiatement, une autre loi israélienne coupera leur budget et leur financement. On l'a déjà vu, c'est déjà survenu dans le cas d'un groupe qui avait écrit une pièce de théâtre dans ce sens. Et il y a également d'autres législations qui empêchent et actions qui empêchent autant que possible la création de couples mixtes, différentes mesures les poussant à l'émigration. Donc vraiment, c'est la tendance que l'on voit aujourd'hui, c'est l'objectif et c'est extrêmement dangereux.
I would say make them immigrate as soon as possible. This is the tendency, this is the target, and we see it is a very, very dangerous one.
Alors, nous parlerons, mais peut-être dans la deuxième partie de l'émission, parce que ce sera important de se poser sur cet exemple et les actions de Jewish Voice for Peace aux États-Unis. Peut-être, pour poser vraiment le débat, situer ces actions menées par BDS et autres mouvements, les critiques formulées contre ces mouvements reposent sur l'argument qu'il s'agit d'actes antisémites. Alors, peut-être on peut un tout petit peu développer là-dessus et avoir votre réponse, Dominique Vidal, en commençant par vous.
Il y a un curieux renversement des rôles dans ce type d'argumentation, qui est d'ailleurs l'argumentation développée depuis longtemps par les dirigeants israéliens, dont je veux quand même redire, parce que c'est très important ce qu'a dit Léa Tzemel, qu'il s'agit d'un gouvernement de droite et d'extrême droite. On a parlé pour l'instant de 2 lois, mais moi j'en compte 10 qui sont des lois liberticides adoptées par la Knesset dans les 5 dernières années. Dont une loi, je veux la mentionner parce qu'elle est incroyable, elle n'existe nulle part au monde, pas même en Corée du Nord. Cette loi permet à 90 députés du Parlement israélien sur 120 d'exclure les autres. Vous imaginez, pour faire un parallèle, la République En Marche, excluant de l'Assemblée nationale le groupe du Front National et le groupe de la France Insoumise. Enfin, c'est une chose incroyable. Et quand on dit fascisant ou fasciste, évidemment, ça provoque une certaine gêne parce qu'il s'agit d'Israël. Mais comment qualifier autrement les relations qu'entretient le gouvernement israélien et qu'entretiennent les partis constitutifs de cette coalition avec un homme comme Orban en Hongrie qui fait l'apologie du régent Horthy, responsable en dernier ressort du génocide des Juifs hongrois, avec le Polonais Kaczynski. Je rappelle qu'une loi maintenant votée en Pologne interdit de mentionner la participation de Polonais au génocide des Juifs, alors que tous les historiens, y compris polonais, sérieux, disent que ça a été une participation très importante. Le même gouvernement, les mêmes partis, entretiennent des relations avec toutes les formations d'extrême droite en Europe occidentale. Il y a là, vous voyez, des caractéristiques d'un gouvernement extrémiste, pas seulement dans son attitude vis-à-vis des Palestiniens, aussi dans son attitude vis-à-vis de ses propres citoyens et vis-à-vis des alliances qu'il passe dans le monde. Donc ce gouvernement considère que quand on le critique, on est antisémite, c'est le monde à l'envers. Alors si on critique Poutine, on est anti-russe, si on critique Merkel, on est anti-allemand. Vous voyez, il y a là quelque chose qui ne tient pas debout. Bien sûr que, et je crois que les organisations qui sont engagées dans la campagne BDS le font, bien sûr qu'il faut être très attentif à tous les dérapages possibles. Il y a en France des antisémites qui ne peuvent plus ou n'osent plus s'affirmer comme tels et qui peuvent se draper dans le drapeau de BDS ou le drapeau de l'antisionisme. Et on connaît ces gens d'ailleurs, ils ont été condamnés pour des faits d'antisémitisme, qu'il s'agisse de Dieudonné, d'Alain Soral ou d'autres. Mais on ne peut pas, à partir de ces cas tout à fait marginaux, même ultra marginaux, mettre en cause un mouvement qui, lui, est parfaitement clair. La critique de la direction israélienne n'est pas une critique des Juifs, c'est une critique de la direction israélienne.
Bertrand Lebrun.
Oui, dans cet amalgame que vous citez entre le boycott, l'appel au boycott et l'antisémitisme, qui évidemment n'a aucun sens, comme le relevait Dominique Vidal, on retrouve effectivement le thème de notre colloque qui était « A-t-on le droit de contester la politique israélienne ?» Parce que cela fait partie de l'intimidation, cela fait partie du couvercle, du dénigrement du couvercle sur l'expression qui fait que chacun commence à avoir peur de parler et de contester la politique israélienne. On est là sur des amalgames qui sont extrêmement graves et qui ensuite, le relais est pris par un certain nombre de personnes qui disent « Bon, le boycott est illégal en France », ce qui est totalement faux. La plupart des tribunaux n'ont jamais condamné les personnes qui ont appelé au boycott. Un tribunal l'a fait. Cette décision est contestée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a d'ailleurs, dans le passé, condamné déjà 700 fois la France pour ses violations des droits de l'homme, dont une 30aine de fois pour la liberté d'expression. Donc, il n'y a absolument pas d'illégalité. Et quand le gouvernement français, dans des communiqués, dit que le boycott est illégal, il encourage Israël à venir réprimer des organisations de la société civile comme la nôtre. Nous demandons clairement au gouvernement français de nous soutenir par rapport à ces attaques. Nous sommes allés les voir pour leur demander de nous soutenir. Et donc, il faut arrêter de continuer à alimenter ce discours israélien qui n'est en fait qu'un discours pour faire taire toute opposition à sa politique. Et à sa politique, on l'a souligné, qui est déjà extrêmement grave, qui dénie totalement le droit international et qui risque encore de s'aggraver dans les mois qui viennent.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Bertrand Lebrun, Dominique Vidal, Rebecca Wilkomerson et Léa Tsemel dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, Israël-Palestine, a-t-on le droit de contester la politique israélienne? Nous retrouvons nos invités, Léa Tzemel, avocate israélienne et défenseuse des droits de l'homme, titulaire du prix des droits de l'homme de la République française, Rebecca Wilkomerson, directrice exécutive de l'association américaine Jewish Voice for Peace, Dominique Vidal, journaliste et historien, auteur de « Antisionisme égale antisémitisme », point d'interrogation, réponse Emmanuel Macron, paru aux éditions Libertalia, et Bertrand Elbrun, président de l'association France-Palestine Solidarité. Rebecca Wilkomerson, Jewish Voice for Peace. À quoi le mouvement est-il confronté aujourd'hui aux États-Unis? Les relations sont particulièrement tendues entre les États-Unis et les dirigeants palestiniens depuis la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël. Comment les choses se passent-elles depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir?
Well, things are clearly not going well since Donald Trump was elected. And I think, you know, I remember back to the summer before he was elected when it never...
Oui, alors pour répondre, tout d'abord, évidemment que ça ne se passe pas très bien. Je me rappelle qu'à l'été qui a précédé l'élection de Donald Trump, je n'arrivais pas à m'imaginer une demi-seconde que Donald Trump pourrait être élu, et quelqu'un m'avait demandé à l'époque qu'est-ce que Jewish Voice for Peace ferait donc si Donald Trump était élu, et j'avais répondu un peu comme une blague que nous rejoindrions peut-être le front antifasciste américain, et d'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé. Nous sommes à présent, nous travaillons de pair avec de nombreuses autres organisations pour lutter contre toutes les politiques Trump. Nous nous sommes concentrés sur la lutte contre les propos islamophobes qui a été notamment soutenue et qui a connu un grand élan en raison de la tentative de Donald Trump d'imposer une interdiction d'entrée sur le territoire pour les pays, pour certains pays musulmans, même si la Cour suprême a à plusieurs reprises exprimé que cette décision n'était pas constitutionnelle. Il y a beaucoup d'autres domaines sur lesquels nous nous battons, dans le domaine de l'environnement, de l'éducation. Tout ce qui est attaqué aujourd'hui, nous essayons de le défendre, mais plus précisément sur la question Israël-Palestine, on voit bien au travers de cette nomination du gouvernement Trump quelle est la position prise par son gouvernement. L'ambassadeur des États-Unis auprès d'Israël est une personne qui, par le passé, a soulevé des fonds pour soutenir les colonies illégales en Palestine. Monsieur Kushner, qui est son envoyé spécial, plus ou moins, sur les questions du Moyen-Orient, et également son gendre est un fervent soutien d'Israël. Mike Pence, le vice-président, est lui un chrétien évangéliste qui croit à la fin des temps, et c'est sur ces raisons-là qu'il soutient lui-même également Israël et utilise donc Israël à ses propres fins. Mais ce qui est vraiment essentiel, je pense, c'est qu'aujourd'hui, le mythe selon lequel les États-Unis pourraient rassembler Israël et la Palestine a été complètement détruit, et c'est aujourd'hui au grand jour. Sur le long terme également, je pense qu'il est important de souligner que Donald Trump pose un vrai problème pour la marque Israël, pour ainsi dire, puisque aux États-Unis, nous avons beaucoup moins de soutien à la cause palestinienne qu'en Europe. Tous les gouvernements républicains comme démocrates ont toujours soutenu Israël aux États-Unis, mais à présent, en raison de ce soutien total de Donald Trump à Israël, certaines personnes sont plus prêtes à se poser la question de savoir s'il souhaite vraiment soutenir ouvertement un gouvernement qui a des politiques de droite et d'extrême droite.
Because Trump is supporting it, maybe they need to think again about how strongly they want to support it as well.
Dominique Vidal.
Oui, je voudrais dire que en France et en Europe, nous n'avons pas la même protection de la liberté d'expression qui est assurée aux États-Unis par la Constitution. Et c'est un élément important. Il n'empêche, comme Bertrand Elbron l'a montré, que BDS chez nous n'est pas interdit. Il n'y a pas, contrairement à ce que certains disent, de loi interdisant BDS. Il y a une directive ministérielle qui n'est pas appliquée par la plupart des parquets, et il y a un jugement de la Cour de cassation, comme Bertrand l'a dit, qui est susceptible d'être retoqué par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, les mêmes qui voulaient interdire BDS sont en train de demander, le président du CRIF lui-même, du Conseil représentatif des institutions juives de France, Francis Khalifa, l'interdiction de l'antisionisme. Ce qui est quand même curieux, ce qu'il est encore plus, c'est que le président de la République, au moment de la commémoration du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv, à la fin d'un excellent discours, ait mentionné cette phrase dans laquelle il dit vouloir s'opposer à l'antisionisme, qui est une forme réinventée d'antisémitisme. C'est un amalgame vraiment curieux, parce que d'un côté on a l'antisémitisme, qui est un délit, puni par les lois en France, comme toutes les formes de racisme, et de l'autre côté on a une opinion, Qu'est-ce que c'est que l'antisionisme ? Parce qu'on entend énormément de choses là-dessus. C'est simplement le fait de contester la théorie de Theodor Herzl, qui pensait que les Juifs étaient inassimilables dans les pays où ils vivaient, et donc il leur fallait un État où ils puissent tous se rassembler. La vie a montré, notamment depuis le génocide, que cette intégration des Juifs dans leur pays a repris. Non seulement elle a repris, mais on a aujourd'hui une majorité de mariages entre Juifs et non-Juifs dans les pays occidentaux, aussi bien en Europe que aux États-Unis, au Canada. Donc, il est complètement absurde de mettre sur le même plan un délit et une opinion. Imaginez que les communistes exigent l'interdiction de l'anticommunisme, ou les gaullistes l'interdiction de l'antigaullisme, ou bien les néolibéraux l'interdiction de l'altermondialisme. On voit bien qu'il n'y a aucune réalité à cette volonté d'interdire l'antisionisme. Et d'ailleurs, à mon avis, cette idée va faire un flop magistral, ne serait-ce que parce que le Conseil constitutionnel en France ne peut absolument pas réinventer un délit d'opinion qui est absolument contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à la Constitution de la Ve République et à la Convention européenne des droits de l'homme.
Alors, il a été frappant de constater durant cette journée de colloque, donc sur le thème Israël-Palestine, a-t-on le droit de contester la politique israélienne, de constater de l'absence de réciprocité des actions menées par Israël. Et on en vient peut-être à la responsabilité des gouvernements, et peut-être ce qu'évoquait à la fois Léa Tzemel, Rebecca Wilkomerson, peut-être un engagement plus fort de l'Europe. Interdiction d'entrée sur le territoire faite aux étrangers qui soutiennent BDS, ça c'est l'action d'Israël. On évoque la suspension des accords de coopération entre l'Union européenne et Israël, en tout cas comme mesure de contre-attaque, entre guillemets. Léa Tzemel, l'absence de réciprocité, vous l'avez souligné également.
Yes, I think it's a very, very important point. We know nowadays, and as a lawyer I know it almost day by day, that whenever young people, old people, people are involved in human rights.
Oui, je pense que c'est un point extrêmement important. Aujourd'hui, en tant qu'avocate, je me rends compte de cette réalité au quotidien. Je sais que lorsque des militants des droits de l'homme, qu'ils soient jeunes ou vieux, tentent d'entrer en Israël, ils sont extrêmement mal traités par le ministère de l'Intérieur. Ils sont aux aéroports directement et de nombreux d'entre eux sont obligés de quitter Israël immédiatement, qu'ils soient des militants très actifs ou moins actifs. Parfois, il suffit d'avoir simplement son nom inscrit sur un flyer ou d'avoir signé une pétition pour ne pas pouvoir rentrer. Donc, aujourd'hui, entrer en Israël est quelque chose d'extrêmement compliqué. On est interrogé, on nous demande de donner notre téléphone pour que l'armée puisse regarder quel est, ou pour que les autorités puissent savoir quels sont vos amis. Vous devez donner votre mot de passe pour avoir accès à votre compte personnel d'email, à votre compte Facebook également. Vous devez vous excuser de vos actions réelles ou imaginaires. Et si vous êtes interdit une fois d'entrer sur le territoire israélien, cette interdiction est valable pendant 10 ans. Donc voilà comment est-ce que Israël fonctionne aujourd'hui. Et pourtant, les citoyens israéliens, eux, peuvent se rendre absolument partout. Ils n'ont pas besoin de visa pour aller en Europe. On ne leur pose pas de questions pour savoir où est-ce qu'ils ont fait leur service militaire, s'ils ont une activité militaire, s'ils ont servi dans les territoires occupés, les colonies illégales, s'ils ont été coupables, s'ils sont coupables de crimes de guerre, ce qui est le cas pour beaucoup d'Israéliens. Non, on ne leur pose jamais de questions, ils peuvent se rendre absolument partout. Et j'ai parlé auparavant des couples mixtes. Aujourd'hui, si un Européen ou un Américain marie un Palestinien qu'il vive en Cisjordanie, eh bien, on va demander à la personne de quitter son emploi, d'avoir un visa touristique. Seulement, l'époux ou l'épouse va devoir même payer entre 50 000 et 80 000 shekels pour pouvoir ensuite quitter. Donc, tout est fait pour les forcer à quitter le territoire. Alors qu'en revanche, si un Israélien ou une Israélienne épouse un citoyen ressortissant français ou une ressortissante française, alors il n'y aura qu'un problème pour qu'ils viennent s'installer en Israël et les enfants pourront devenir des citoyens français. Et on voit qu'il y a un problème de réciprocité. Lorsque on peut constater avec le cas de Salah Hamouri, par exemple, qui a épousé une femme française qui ne peut pas se rendre en Palestine, qui, avec son enfant, bon, certes, aujourd'hui, Salah Hamouri est en prison, mais on espère qu'il sera libéré rapidement. Donc, voilà, les conséquences sont vraiment très graves au quotidien.
Because he's a Palestinian, so he has less rights. The discrimination is very, very clear, even in those very personal points.
Rebecca Wilkomerson.
Yes, I just wanted to point out that the possibility of Europe taking actions against Israel in reciprocity to some of Israeli policies is actually the
Oui, je voulais réagir sur la possibilité pour l'Europe d'agir et de mettre en place des mesures de réciprocité face aux actions d'Israël. Eh bien, c'est le cœur même des campagnes BDS, puisque comme on l'a rappelé, BDS, cela veut dire boycott des investissements sanctions. Donc, boycott, c'est l'action menée par les individus. Le désinvestissement concerne plus les grandes institutions, les entreprises qui sont appelées à désinvestir et à ne plus financer les entreprises qui bénéficient des politiques critiquées, et alors que le S, lui, représente les sanctions et toutes les évolutions des différentes campagnes de BDS qui ont été menées dans l'histoire tendent à aller vers le S, la sanction, qui est l'étape finale, puisque c'est lorsque le gouvernement est obligé d'agir suite à la pression mise par la société civile et les entreprises. Donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a une évolution intéressante qui existe et que les sanctions se rapprochent de plus en plus que l'on peut croire qu'il y aura des sanctions rapidement. Par exemple, aux États-Unis, il y a une première loi qui a été proposée afin de sanctionner Israël, une loi par une femme qui s'appelle « Ce n'est pas une façon de traiter un enfant ». L'objectif de cette loi est de lutter contre l'utilisation de l'aide militaire américaine qui est utilisé pour maintenir des prisonniers palestiniens mineurs en prison. Certes, c'est une action qui est encore petite, cependant, c'est un premier pas, et nous avons réussi, cette loi a réussi à obtenir plus du double des soutiens que nous espérions obtenir, même si le lobby pro-israélien au Congrès est extrêmement fort et habituellement agit pour que ce type de loi ne soit pas présenté.
Bertrand Lebrun.
Oui, je voudrais revenir sur cette question des sanctions qui est essentielle. Nous la demandons très souvent, nous nous adressons au gouvernement français ou à l'Union européenne pour demander effectivement que les violations du droit international soient sanctionnées. On a toujours la réponse, non, il n'y aura pas de sanctions. Donc ça veut dire que nous avons devant nous des gouvernements qui nous disent, un, je veux faire respecter le droit international, et deux, la phrase tout de suite derrière, je me coupe le bras pour ne pas avoir à le faire. Donc là, il y a une contradiction énorme qui est particulièrement forte au niveau de l'Union européenne. Je voudrais dire deux choses. D'abord, cette question de l'étiquetage des produits des colonies n'était pas une sanction, c'était juste une note interprétative pour dire il y a des règles dans l'Union européenne et ces règles doivent s'appliquer. Dans le cas des produits des colonies, voilà comment elles s'appliquent. Cette simple rappel des règles a été immédiatement qualifié par Benjamin Netanyahu d'une directive antisémite. C'est absolument incroyable. Ça montre le niveau d'amalgame qu'il peut y avoir sur ce sujet-là. Deuxième point, quand vous allez sur le site internet du Service européen d'action extérieure, vous avez toute une page sur la politique de sanctions de l'Union européenne, parce que c'est une politique essentielle. L'Union européenne en tant que telle n'a pas d'armée. Les sanctions pour faire appliquer le droit, c'est essentiel au niveau de la politique européenne. Et on l'a vu, par exemple, dans le cas de l'annexion de la Crimée, comme les sanctions ont été rapides. Dans le cas de la suspension de l'accord d'association, ce ne serait que l'application du droit et que l'application de l'esprit dans lequel ces accords d'association ont été signés, puisqu'ils ont été décidés en 1995, au moment où on était dans la volonté d'encourager un processus de paix qui semblait être réel à cette époque-là, et ensuite validé en 2000 en disant « c'est ce qui va permettre de faire aboutir des perspectives de paix ». On voit qu'on n'y est pas du tout. Le prétexte, c'est toujours « il faut l'unanimité du Conseil européen ». Rien n'empêche, faute de cette unanimité, de commencer à mettre sur la table ces sanctions et de dire, attention, il existe une possibilité de suspendre l'accord d'association. Ce premier pas-là, pour le moment, l'Union européenne et surtout les États membres, dont la France, ont toujours refusé de le faire. Et c'est extrêmement grave parce que c'est l'impunité qui arrive. L'impunité, c'est le pire des services qui peut être rendu à Israël.
Dominique Vidal.
Juste une précision sur ce que vient de dire Bertrand Lebrun. Il y a dans l'accord d'association de l'Union européenne avec Israël, comme avec tous les autres partenaires de l'Union européenne, un article 2 qui conditionne l'application de l'accord d'association au respect par les parties contractantes des droits de l'homme et du droit international. Donc c'est pas du tout un fantasme. Il y a de quoi, dans le texte même du traité, poser la question de la suspension. Mais je voulais aussi dire, pour apporter un rien de, de léger dans cette émission, qui ne l'est pas évidemment, vu le sujet que nous traitons, nous avons oublié un élément de BDS dont personne n'a parlé ici, c'est le boycott d'Israël par les ambassades israéliennes. Et voilà que cet incroyable fait s'est produit cette semaine. L'ambassadrice d'Israël en France a décidé de boycotter la séance d'ouverture du festival du film israélien qui est financé par l'ambassade. Pourquoi ? Parce qu'il y a un film israélien très connu qui s'appelle Foxtrot, qui traite effectivement du comportement de l'armée israélienne et de comportements particulièrement lourds. Et surtout, je dirais, que la ministre de la Culture, Miri Regev, qui fait partie de la constellation des fascistoïdes au pouvoir à Tel Aviv, a décidé que ce film devait être absolument boycotté. Donc, fidèle ambassadrice, l'ambassadrice en France d'Israël, a décidé de boycotter cette séance.
Léa Tzemel, vous souhaitez réagir peut-être à ce que vient d'évoquer Dominique Vidal ?
Oui, alors je voulais juste réagir en disant que une réalité absurde mène à des conséquences absurdes. Et même si là, maintenant, je ris à l'intérieur, je pleure puisque je vis là-bas, j'y élève mes enfants, mes petits-enfants, et c'est vraiment tragique.
Where are we going?
Peut-être en conclusion de cette émission, même si c'est difficile bien sûr de conclure, on peut peut-être rappeler que la semaine prochaine sera une semaine riche en discussions sur le conflit israélo-palestinien, avec le Koweït qui a prévu jeudi 22 à New York une réunion informelle sur ce sujet avec une participation de l'ex-président américain démocrate Jimmy Carter. Est-ce que l'on peut dire que le fait aussi que les dirigeants palestiniens soient plutôt affaiblis ne contribue pas au problème et à ce que nous avons évoqué tout au long de cette émission? Dominique Vidal.
Moi, je suis très inquiet personnellement parce qu'il y a un phénomène de fuite en avant de ce gouvernement israélien pour des raisons dont j'ai parlé tout à l'heure, dont nous avons discuté, et qui bénéficie d'une espèce d'alignement des astres que j'espère de tout mon cœur provisoire, parce que ça peut mener à une déflagration générale au Proche-Orient. Je veux dire, premièrement, une administration américaine, plus pro-israélienne que jamais. Deuxièmement, un monde arabe dit modéré, allié avec Israël, avec les États-Unis contre l'Iran, la question palestinienne n'étant plus dans ses priorités. Et troisièmement, c'est important, vous l'avez mentionné, cette division entre Fatah et Hamas qui demeure malgré les efforts de rapprochement. J'ajoute à cela un chaos régional avec la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Libye un peu plus loin, qui évidemment marginalise la question du conflit israélo-palestinien. Bref, il y a beaucoup de raisons pour les dirigeants israéliens actuels de se lancer dans je ne sais quelle escalade. Et personnellement, je trouve que la France a un rôle à jouer, on le dit souvent, mais il faut le redire, un rôle important à jouer, justement dans des circonstances où les États-Unis ne tiennent plus leur rôle, du fait de l'administration Trump, où l'Europe est à l'attente d'initiatives. Donc la France peut, aujourd'hui, je crois, être la force qui peut mener l'Europe à une prise de position utile.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Dominique Vidal, journaliste, historien, auteur de Antisionisme égal antisémitisme, point d'interrogation, réponse à Emmanuel Macron, paru aux éditions Libertalia. Bertrand Elbrun, président de l'association France-Palestine Solidarité. Léa Tzemel, avocate israélienne et défenseuse des droits de l'homme, titulaire du prix des droits de l'homme de la République française. Et Rebecca Wilkemerson, directrice exécutive de l'association américaine Jewish Voice for Peace. Merci également à Lénaïg Toraval pour sa traduction. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Marjorie Bertin et Nathalie Lapin.